Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hissez la grande voile!
Politique, société.
Mais y a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Forward.
Forward.
Drift into the right level.
Tout le monde est à son poste.
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
Demis Roussos n'aura pas supporté. Le chanteur grec, ancien membre d'Aphrodite's Child, est mort aujourd'hui à l'âge de 68 ans, au lendemain de la victoire du parti de gauche radical Syriza en Grèce. Le parti d'Alexis Tsipras, qui se positionne contre la politique d'austérité menée par l'Union européenne, entend bien renégocier la dette, augmenter le salaire minimal, remonter le seuil de revenus imposables, le tout en luttant notamment contre l'évasion fiscale. Certes, avec 149 sièges, Syriza n'obtient pas la majorité absolue au Parlement grec. Il lui en manque deux et il devra donc faire ami-ami avec quelques chaises plus à droite. Mais cette victoire soulève un vent d'espoir dans les pays européens touchés par les politiques d'austérité. Le premier d'entre eux, cité dès hier soir dans les journaux, est l'Espagne. L'Espagne qui se prépare en 2015 à affronter une année très électorale, municipale, régionale, partielle et législative. Là-bas, le parti antilibéral Podemos se voit déjà rafler la mise. Si tel était le cas, espérons que Julio Iglesias tiendra le coup, lui qui en plus porte le même nom que le leader de Podemos, Pablo Iglesias.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, vers 19h30, vous retrouverez le billet lance-torpille de Yann. Yann, toujours aussi en forme en 2015 qu'en 2014. Il causera dans le micro juste avant l'interview de Clarisse Arnoux, co-directrice de Yotanka, qui se voit accorder jeudi une carte blanche au Shabada pour leurs 10 ans. À la fin de l'émission, vous entendrez la chronique sportive d'Hugo. Mais d'abord, arrêtons-nous sur la mobilisation d'un collectif de soutien à une famille angolaise menacée d'expulsion.
Des centaines de lycéens, peut-être des milliers, tous réunis place de la Nation ce matin pour une même cause, le retour en France de Leonarda et Hatchik, la collégienne kosovare et le lycéen arménien renvoyés dans leur pays. La plupart des manifestants ne connaissent pas les deux sans-papiers, mais sont choqués par leur expulsion.
Extrait d'un journal de France 3 daté d'octobre 2013, on se souvient bien sûr de l'épisode Leonarda. Eh bien ici à Angers, il y a une semaine, nous recevions dans notre boîte mail ce message. Les personnels de l'école Nelson Mandela, du collège Californie, du lycée Jean Moulin et du lycée Henri Dunant appellent à la solidarité contre l'expulsion d'une famille angolaise. Nous avons voulu en savoir plus sur cette situation et nous recevons donc ce soir Sarah Lavergne. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignante au Collège Californie et vous faites partie donc du collectif de mobilisation contre l'expulsion de cette famille angolaise, une mère et 5 enfants, dont 4 mineurs. Quel lien est-ce que vous avez avec cette famille, Sarah Lavergne ?
Alors moi, je suis l'enseignante d'un des enfants. Deux sont scolarisés dans notre collège, donc Californie, dans la Doutre, à Angers. Et voilà, et nous avons formé un collectif avec l'ensemble des personnels éducatifs des 4 établissements qui se sentent concernés par cette situation. Voilà.
Quel âge ont ces enfants ?
Ils ont de 6 à 19 ans, à 18 ans et demi.
Alors la famille a fui l'Angola, c'est un pays qui n'est pas très médiatisé, c'est un pays du sud-ouest de l'Afrique dirigé par José Eduardo dos Santos au pouvoir depuis 79, 35 ans de démocratie donc. 68,2% de la population dispose de moins de 2 USD par jour, le taux de chômage officiel atteint 26%. Est-ce que la famille, Sarah Lavergne, vous a raconté la situation sur place ?
Alors c'est une famille qui a fui suite à des violences et à des traumatismes importants. On ne connaît pas exactement tout le dossier. Comme je vous le disais hors antenne, c'est vraiment l'avocat et les gens qui ont traité la demande d'asile qui sont parfaitement au fait. Ce que l'on sait, c'est que le père a disparu à l'heure actuelle. On ne sait pas où il se trouve. Donc la mère et ses 5 enfants sont particulièrement inquiets. Oui, ils ont été victimes, eux-mêmes, de violences auxquelles ils ont assisté ou qu'ils ont subies. Voilà. Il leur est impossible à l'heure actuelle de revenir dans le pays. Ils se sentent menacés.
On rentrera pas plus dans les détails sur ce qui s'est passé sur place. Depuis combien de temps est-ce que cette famille est arrivée en France et est-ce que vous savez par quels moyens ?
Alors, elles sont arrivées en 2012, en février 2012, ça fera bientôt 3 ans. Je ne connais pas exactement les conditions de leur arrivée sur le territoire français. Ils sont arrivés à Angers 2 mois après, donc ils sont d'abord arrivés en Alsace et puis à Angers, donc ça fait près de 3 ans qu'ils sont là.
Et donc la situation actuelle, au début, ils se sont vus accorder une demande d'asile ?
C'est ça, ils ont été d'abord demandeurs d'asile et puis la mère, puisqu'il s'agit de la mère, a bénéficié d'un titre d'étranger malade pour 1 an, mais ce titre n'a pas été renouvelé. Donc, ils se sont trouvés, disons, rapidement en situation d'irrégularité sur le territoire. Et ils ont reçu un ordre de quitter le territoire en septembre, applicable en octobre dernier.
Donc, ils sont actuellement clandestins en France.
C'est ça. Oui, c'est ça.
Les étrangers mineurs peuvent faire l'objet d'une décision d'expulsion ?
C'est-à-dire que c'est la mère qui fera l'objet d'une décision d'expulsion. Je parle pour les 4 mineurs et les enfants devront suivre la mère. Donc eux en particulier ne font pas l'objet d'une procédure, mais ils la subissent tout autant que leur propre mère.
Ça veut dire concrètement qu'à tout moment, ils peuvent être expulsés ?
Oui.
Donc ils vivent tous les jours dans le doute ?
C'est ça, c'est
dans
ça.
La peur.
C'est ce qui plane sur leur tête, et l'épée de Damoclès. Et même si on n'imagine pas une situation comme ça, à la fois très soudaine, très, très violente, d'une expulsion qui pourrait se produire à leur domicile ou qui pourrait se produire au pire dans leurs établissements scolaires, on n'imagine pas. Mais
pour vous, c'est pas possible.
Ah, pour nous, c'est impossible. Et bon, on a le soutien, y compris de notre hiérarchie, mais on ne peut pas imaginer. Non, ça serait trop violent pour l'ensemble des élèves. Et même si ça ne se produisait pas dans les murs des établissements, ce qui semble impensable, ne plus avoir les élèves en classe, sachant que voilà, ils ont été raflés, c'est un terme un peu fort, mais qu'ils ont été
expulsés.
Voilà, ça serait une situation très violente qu'on peut pas imaginer, mais si je suis là ce soir et si on s'est rassemblés en collectif, les éducateurs sportifs, toutes les communautés éducatives des établissements, c'est parce qu'effectivement on craint cette situation.
Sarah Laverne, vous évoquiez tout de suite les élèves, les camarades de classe de ces enfants. Quelle réaction ? Dans les écoles, dans les établissements scolaires ?
Alors, nous, on a choisi de ne pas informer les élèves.
Pour quelle raison ?
Pour préserver les enfants. On a choisi vraiment de... Pour le moment, on a fait vraiment des procédures administratives, c'est-à-dire qu'on s'est adressé à la préfecture, on a adressé par le biais de l'inspection académique qui a bien voulu l'intermédiaire des courriers de recommandation. Qui ont été rédigés par l'ensemble de la communauté éducative, les éducateurs sportifs, les gens qui les encadrent, qui encadrent les enfants, si vous voulez, attestent de l'assiduité, des qualités scolaires, de la volonté d'intégration. On a fait différentes démarches dans ce sens-là. On a interpellé aussi les organismes qui aident matériellement la famille, le Conseil général, le président du Conseil général. Les services sociaux de la préfecture pour éventuellement trouver un autre logement, puisque la famille est à présent expulsable du logement qu'elle occupe, puisqu'elle n'est plus demandeur d'asile et que c'est France Terre d'Asile qui la loge. Voilà, on a fait surtout des démarches administratives, mais on n'a pas du tout médiatisé, on a vraiment voulu protéger la vie quotidienne des enfants.
Quelles conséquences, vous, en tant qu'enseignante, sur l'apprentissage, les conditions d'apprentissage des enfants qui sont au Collège Californie ?
Alors là, dans l'immédiat, je dirais que voilà, ils ont une scolarité normale, ils viennent à l'école, tout se passe bien. Mais c'est vrai que s'ils avaient à quitter leur logement, par exemple, et si on devait se rabattre sur un logement d'urgence à la nuit, par exemple le 115, c'est aussi vraiment une interrogation et puis une crainte aussi pour nous et pour la famille en premier lieu, c'est qu'ils se déscolarisent. C'est qu'ils ne puissent pas suivre une scolarité normale si ils n'ont pas les conditions matérielles pour étudier, pour se nourrir, pour bon.
Parlons de la question du logement. Vous disiez tout de suite que France Terre d'Asile, qui actuellement les héberge, pourra peut-être plus bientôt le faire. Oui. Quelle solution à ce moment-là?
Alors, c'est ce qu'on cherche. En ce moment, on a fait des démarches pour voir quels organismes dans la ville d'Angers seraient prêts à accueillir une famille. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on fait appel à une solidarité auprès des gens, des proches, des familles. Et là, il s'agit d'une famille de 6 personnes. Donc, loger 6 personnes, ça ne peut pas s'improviser. Il faut vraiment que la préfecture, par exemple, propose une solution, un autre logement, un autre type de logement. C'est vrai que France Terre d'Asile, normalement, comme le clarifie son statut, loge les demandeurs d'asile et que la famille n'est plus demandeur d'asile puisqu'elle a été déboutée. Voilà. Mais on n'a pas vraiment de réponse là. J'ai du mal à vous répondre, on ne sait pas.
On accueille en studio à l'instant Aurélien Fouché. Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Vous êtes éducateur sportif.
Oui, c'est ça.
Et vous encadrez, je crois, dans le cadre de votre activité professionnelle, deux des garçons de cette fête.
Trois garçons, donc Mickaël, Eliseo et Abel, depuis 3 ans.
On parlait tout de suite de la volonté d'intégration de cette famille angolaise sur Angers. Vous pouvez peut-être en témoigner.
Oui, je trouve qu'elle est réelle. Donc, ils avaient du mal il y a 3 ans encore à parler. Ils parlaient donc portugais puisqu'ils sont angolais. Et leur français maintenant est parfait. Hein. Donc, une intégration qui passe par la politesse, beaucoup de respect. Donc, on est très satisfaits, nous, au niveau du sport, en tout cas, de ces 3 garçons. Et on connaît aussi la famille.
À quel moment, vous, Aurélien Fouché, vous êtes mobilisé?
Alors, c'est Johan qui fait partie du collectif qui m'a contacté, qui avait eu mes coordonnées, qui avait fait le tour un peu du réseau associatif sur Angers et donc les Hauts-de-Saint-Aubin. Et donc, il m'a contacté, c'est tout de suite, sans hésiter, que j'ai rejoint le collectif.
On peut peut-être parler de cette mère de famille qui, elle aussi, témoignait d'une volonté de s'intégrer de manière très pratique, voilà, en trouvant un emploi.
Oui, tout à fait. Elle avait trouvé un emploi dans une entreprise angevine. Une entreprise de services ménagers. En fait, quand elle a reçu l'OQTF, l'entreprise était dans l'illégalité. Donc
L'OQTF, c'est l'obligation de quitter le territoire français.
Exactement. Et donc, elle lui a demandé de démissionner. Mais on a correspondu avec le patron de cette entreprise qui a rédigé un courrier disant toute la satisfaction qu'il avait de son employé, et il serait prêt à la réembaucher si toutefois elle avait une situation régulière.
On va poursuivre cette discussion juste après Warsaw Afrobeat Orchestra avec Science.
We'll be right back.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Ce soir, nous recevons des membres du collectif de mobilisation contre l'expulsion d'une famille angolaise, Sarah Lavergne, enseignante au Collège Californie, Aurélien Fouché, éducateur sportif. Samedi, on a lu dans la presse qu'une jeune fille angolaise avait bénéficié d'un parrainage républicain. Alors, le parrainage républicain, il est destiné à faire entrer l'enfant dans la communauté républicaine et à le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs républicaines. Vous y avez pensé ?
C'est une piste qu'on va sonder, oui, effectivement.
Qu'est-ce que ça représenterait ? Parce que ça n'a pas de valeur juridique, c'est symbolique.
Mais je crois que ça créerait un lien entre la famille et la République. Un lien donc qui montrerait une volonté d'intégration. Ce serait un engagement des politiques qui accepteraient de parrainer, de les soutenir. Il y a déjà des... on sonde aussi tous les appuis politiques des élus. Ça serait une démarche, à mon avis, assez positive.
Il y a également toute une aide matérielle qui a été mise en place. Est-ce que vous voulez en toucher deux mots ici sur les difficultés de cette famille à trouver tout simplement de quoi manger ?
Oui, aujourd'hui, comme on a pu le préciser avant, on est avec la famille en situation de survie totalement, puisque il faut savoir que dernièrement, la maman n'avait plus trop de quoi nourrir ses enfants. Donc c'est très grave, c'est trop important pour nous. Donc aujourd'hui, il y a eu des caisses de solidarité qui ont été faites dans les lycées. Jean Moulin, Henri Dunant, Collège Californie, enfin tous les lycées sont mobilisés par rapport à ça. Donc ce qui a pu, notamment sur la période de Noël, donner le sourire déjà à la maman et ses enfants.
Quelles actions vont être menées désormais pour éviter l'expulsion de cette famille ?
Disons que sur un plan citoyen, il y a le rassemblement mercredi prochain à 17h devant la préfecture. On veut les soutenir physiquement aussi et montrer qu'ils sont entourés par des gens qui ne sont pas isolés. C'est aussi le soutien qu'on veut leur apporter personnellement.
Sinon, vous attendez combien de personnes ? Est-ce que vous avez une idée de la mobilisation ?
On n'aimerait pas trop dire.
C'est dur à estimer.
On a distribué des tracts. Enfin, ça va continuer demain, mais on a des, on va pas dire des promesses, mais on sait qu'on a des enseignants, des personnes du club, un peu partout. Maintenant, c'est difficile. On sait qu'on a une pétition qui tourne à plus de 600, je crois, maintenant.
Pétition, cet après-midi, en tout cas, c'était 607 signatures.
Ouais, pétition en ligne, il y a des pétitions papier aussi qui ont été remplies.
Quelle valeur ça peut avoir, une pétition comme ça ?
Alors, on espère montrer, disons à monsieur le préfet, que beaucoup de gens se soucient de cette famille et qu'il y a un désir de régularisation, qu'il y a un engagement des citoyens autour de cette famille, c'est ce qu'on souhaite.
Actuellement, quelle est la réponse des élus locaux ? Est-ce qu'ils sont concernés ? Enfin, est-ce qu'ils se sentent concernés ? Est-ce qu'ils vous répondent ? Est-ce qu'ils vous aident ?
Alors, pour l'instant, on a eu deux élus locaux donc, qui nous ont répondu, qui ont signé la pétition, qui seront normalement à la mobilisation. On a tous aussi, au niveau de nos contacts, quelques élus.
On peut citer les noms des élus locaux.
Alors, Bouchou et Orphelin.
Vous parliez de monsieur le préfet. Est-ce qu'un rendez-vous a été pris ? Est-ce que vous avez un message à faire passer ?
Oui, on a fait une demande d'audience, justement, le jour même du rassemblement, à 17h30. Donc, il a été adressé un courrier à monsieur le préfet, qui a déjà plusieurs dossiers, puisqu'il a, comme je vous disais, le dossier transmis par l'inspection académique avec les lettres de recommandation. Il a une demande aussi d'aide au niveau du logement. Et puis, cette demande d'audience, où on voudrait... voir dans quoi il est prêt à s'engager pour aider cette famille, même sur un plan matériel, puisque comme on le disait juste avant, c'est une famille qui vit dans une grande précarité, essentiellement de l'aide alimentaire, donc des banques alimentaires et des banques de charité. On voudrait lui demander un soutien à la fois matériel et puis évidemment, si possible, une régularisation pour que la famille soit à l'abri, en fait, de l'expulsion, de la précarité, et puisse continuer à avoir une vie normale. C'est ça.
Et vous avez une réponse ?
Ah non,
rendez-vous, non, pas pour le moment.
Pas pour le moment, on l'attend.
Le message est passé. Donc la mobilisation, c'est mercredi à 17h30.
17h.
17h. Devant la
Devant la préfecture.
Oui. Voilà, c'est ça, c'est noté. Ben, merci beaucoup merci d'avoir été avec nous, Sarah Lavergne et Aurélien Fouché,
merci
ce soir.
À vous.
Merci. Age Burns avec Nowhere to Be.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
On est lundi, c'est l'heure de retrouver la chronique Lance Torpille de Yann.
Bonsoir, bonsoir et bonsoir. Nous voilà fin janvier et cela fait un bon petit moment que je n'étais pas passé derrière ce micro. La dernière fois c'était en 2014 et depuis il s'en est passé des choses. Mais bon, nous voilà aujourd'hui, lundi 26 janvier, et la vie a repris son cours comme elle le devait. Le froid de l'hiver est toujours aussi froid, le ciel gris est toujours aussi gris, et les enfants rient toujours dans les cours de récréation. Ils n'ont pas gagné. Bref, ce soir, je ne parlerai pas de la Grèce, je ne parlerai pas de la victoire écrasante du parti de la gauche radicale Syriza, car il faut bien l'avouer, étant un gros gaucho démago primaire, je suis plutôt content de cette victoire et perds donc toute objectivité. Je ne parlerai pas non plus de la mort de Demis Roussos. Je l'aurais fait si j'étais chroniqueur sur Nostalgie ou Chérie FM.
Merci.
Où il faisait sans doute encore partie de la programmation. Mais par bonheur, ce n'est pas le cas, car je suis sur Radio Campus Angers. Je ne parlerai pas non plus du grec salade tomate oignon que j'ai avalé hier soir et qui m'a rendu malade toute la matinée.
Tu nous épargnes les détails, tu veux bien ?
Bon, vraiment, vous ne voulez pas en savoir plus ? Dans tous les cas, faites attention, c'est un conseil à certains kebabs de la rue Bressini. Sans citer le nom de l'enseigne coupable, certains sont vraiment dégueux. Ce soir, je ne parlerai pas de l'astéroïde qui va frôler la Terre. Enfin, frôler. Il sera à 1 million de kilomètres, c'est-à-dire 3 fois plus que la Lune. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Encore, s'il touchait ne serait-ce qu'un peu la Terre, là ça vaudrait le coup, il y aurait eu de l'action, du fun, mais là, qu'il frôle ou qu'il ne frôle pas, ça ne changera pas le fait que je dois toujours laver ma vaisselle qui s'entasse dans mon évier. Ce soir, je ne parlerai pas de Christine Lagarde, même si elle ferait bien de la fermer de temps en temps au lieu de dire des conneries. Elle a quand même osé dire du défunt roi d'Arabie Saoudite, Abdallah. Je cite, « Abdallah était un grand leader. Il a mis en place un certain nombre de réformes en Arabie Saoudite et était de manière discrète un grand défenseur des femmes. »
Discrète.
Un grand défenseur des femmes. Ce bon vieux roi qui aime tant les femmes, au point de leur interdire de conduire, au point de ne leur laisser aucun droit sans autorisation de leur mari pour pouvoir voyager, accepter un travail salarié, subir une opération chirurgicale ou suivre des études supérieures. Ce bon vieux roi qui aime tant les femmes au point de les laisser se faire flageller ou décapiter sur les places publiques saoudiennes si elles ne respectent pas ses devoirs. Ce bon vieux roi. Ce soir, je ne parlerai pas de la grève des routiers, parce que bordel, ces mecs en chient et tout le monde s'en fout. Quand j'entends à la télé qu'un chauffeur routier se fait 3000 euros net par moi, je suis sidéré. Les routiers longue distance touchent en réalité en moyenne plutôt autour de 1500 euros net. Peu cher payé pour prendre des risques, et oui, la route tue toujours et la mortalité a même augmenté ces derniers temps, et ne voir leur famille que le week-end. Alors, pour obtenir un salaire décent, les gars accumulent les heures et certains bossent 250 heures par mois, et on va venir se plaindre des opérations escargots, tandis que les notaires et les autres avocats, eux, on les excuse.
Ça, c'était la minute des magots ?
Jackpot ! Bon, ce soir, je vais parler de la loi Macron. Enfin, plutôt précisément, du travail le dimanche.
Tiens, ça me rappelle une fois où ça fait partie des « ce soir, je ne parlerai pas de… »
Et tu as raison, en effet, j'en ai fait une comme ça. Mais ce soir, j'ai décidé de m'y attaquer. Alors, résumons. En gros, Emmanuel Macron veut porter le nombre d'ouvertures le dimanche de 5 à 12 par an, élargir les zones donnant droit à l'ouverture systématique le dimanche et permettre le travail jusqu'à minuit dans les commerces situés en zone touristique internationale. Mais travailler le dimanche, c'est aussi d'empêcher d'avoir le temps d'être en famille ou entre amis, empêcher le temps de loisir, tout ça pour pouvoir faire ses courses le dimanche. Pourquoi toujours cette course effrénée à la consommation ? C'est un vrai cercle vicieux. Car on produit plus, donc ils font consommer plus, travailler plus, pour dépenser plus, pour stimuler l'emploi, etc., etc. Et puis, c'est aussi une question d'organisation de la société, par exemple, en garantissant un temps pour nous, étudiants, pour travailler nos cours et réviser nos partiels, enfin, pour ceux qui le font. Le travail le dimanche, c'est aussi la mort des petits commerces restant fermés ce jour-là. Cela peut même être pire qu'à l'ouverture des magasins 7 jours sur 7 en Italie, a par exemple favorisé l'augmentation des prix pour compenser la hausse des frais fixes engendrés par les horaires élargis. Et j'ai des sources sérieuses, bien sûr. Par exemple, une étude commandée en 2006 par Renaud Dutreil, alors ministre du Commerce, concluait une perte de 200 000 emplois dans les commerces de proximité en cas de généralisation de l'ouverture des magasins le dimanche. On travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler. Bref, vous l'aurez compris, le travail le dimanche, ce n'est pas pour moi, et selon moi, ce n'est pas pour vous non plus. Enfin bon, ce n'est que mon avis. Sur ce, bonne semaine à tous, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Yann.
19h, 20h, le sous-marin, sur Radio Campus Angers.
Jeudi, au Shabada, Yotanka se voit confier une carte blanche pour son 10e anniversaire. Hop, et voilà Laetitia Sheriff et Bikini Machine sur scène à partir de 20h30. L'occasion pour Thomas de passer un coup de téléphone à Clarisse Arnoux, co-directrice de Yotanka.
Bonjour Clarisse, vous êtes co-directrice du label Yotanka. Vous êtes basée sur Angers depuis 2011 et la structure accompagne une série de groupes parmi lesquels Zenzile, Laetitia Sheriff ou encore Bikini Machine. Pour célébrer votre 10e anniversaire, vous investissez le Shabada le 29 janvier.
Oui, effectivement. En fait, le label a été créé il y a une bonne dizaine d'années autour de Lyon. Et comme mon collègue Julien Guéry et moi-même l'avons repris il y a 3 ans, on l'a installé à Angers. Il y avait un lien fort, évidemment, avec le groupe Zenzile. Et puis depuis, on a fait pas mal de signatures, sorti de nombreux disques, et dont les très bons Imagine et Laetitia Sheriff qui sont parus à l'automne, en octobre et novembre. Les 10 ans, c'était un peu l'excuse pour... faire cette soirée au Shabada qu'on avait en tête depuis un moment. Donc voilà, vous pourrez voir sur scène d'abord Laetitia Sherif qui débutera la soirée, et puis ensuite Bikini Machine et Zenzile en DJ set clôturera la soirée.
Le Shabada vous donne carte blanche pour cette soirée. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des surprises, voire des nouveautés sur scène? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre?
Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux qui n'ont jamais eu l'occasion de voir le super projet de Laetitia Sherif sur scène. Bikini Machine également, ils ont joué, mais il y a vraiment très longtemps. Donc je pense que c'est des artistes là qui jouent partout en France, dont les albums ont été vraiment remarqués. Donc la surprise, elle commencera par là. C'est découvrir ces deux superbes projets qui sont originaires de Rennes. Voilà. Et Laetitia Sherif et Bikini Machine font partie de la scène rennaise.
Alors cette soirée d'anniversaire au Shabada, elle est également le point de départ d'une tournée d'une dizaine de dates pour Laetitia Sherif. C'était important pour elle de démarrer cette tournée à Angers. Est-ce qu'elle entretient un rapport avec le public angevin qui est plutôt fort?
Elle n'a pas exactement débuté la tournée à Angers, elle l'a débuté plutôt à l'automne, au moment de la sortie d'album, fin octobre exactement. Donc elle a déjà joué quelques concerts un peu partout en France. Elle a même commencé d'ailleurs sa tournée au Canada, au festival du FME. Ça c'était toute fin août. Là, elle est plutôt en milieu de tournée, mais il y a de nombreuses dates qui arrivent là jusqu'au printemps et jusqu'à l'été. Hein. On devrait la retrouver sur de nombreux festivals et dans beaucoup de smacks françaises. Donc voilà, on peut dire que cette tournée qui s'appelle du nom de l'album Pandemonium, Soleil and Stars se passe très très bien pour cet artiste. Et voilà, Angers, c'est l'étape symbolique parce que le label est là, parce que nous on est vraiment contents de la retrouver sur la scène du Shabada. Donc voilà, elle continue sa route ensuite, et puis elle n'a pas exactement commencé sa tournée à Angers.
Ces artistes que vous accompagnez hein, dans le catalogue Yotanka, ils sont tantôt folk, parfois dub ou encore rock. Quelle limite vous fixez lorsque vous décidez de rentrer en contact avec un artiste?
En fait, c'est vraiment le point commun, c'est le coup de cœur. Nous, on se met pas de barrière pour la sélection artistique. On veut garder le label vraiment ouvert. Après, je crois qu'il y a une fibre plutôt indie à la base, c'est rock qui vient de là. Vraiment, il y a 10 ans, le label était centré autour de Meite Chose, Endilé, donc avec une fibre plutôt dub. Nous, on a vraiment eu une volonté d'ouvrir et de plutôt ne rien se refuser. Hein. C'est-à-dire que si demain il y a un artiste chanson française qui nous bluffe, qui nous tape à l'œil, on n'hésitera pas une seule seconde à y aller. Donc voilà, on reste vraiment très ouvert et oui, on marche plutôt au coup de cœur artistique.
Et d'ailleurs, vos artistes défendent des projets assez variés au final, donc que ce soit le dernier album de Laetitia Sherif dont vous parliez juste avant, ou encore le ciné-concert récent de Zenzile dans le cadre du festival Premier Plan. Eh bien, tous ces artistes-là, ils proposent des sorties assez différentes les unes des autres. Quels sont les projets qui gravitent autour du catalogue Angevin en ce moment? Notamment Zenzile, par exemple, après ce ciné-concert, qu'est-ce qu'ils sont en train de réaliser?
Voilà, ciné-concert de Zenzile Berlin, la symphonie d'une grande ville, qui a été jouée là tout récemment dans le cadre du festival Premier Plan la semaine passée. Là, c'est vraiment leur projet actuel. Donc, les diffusions commencent. Il y a une dizaine de dates prévues pour ce ciné-concert. Et puis, les enfants auront également la chance de pouvoir le revoir parce que la collégiale est évidemment plus que complète. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de frustrés Angers. Donc, ils auront l'occasion de le rejouer au Musée des Beaux-Arts le 16 avril. Voilà, Berlin, c'est vraiment leur projet actuel. Ils sont concentrés là-dessus. Et puis ensuite viendra le temps de composer un nouvel album. Vous parliez du lien ou de la différence entre les styles de nos différents artistes. En fait, il y a quand même des points communs, c'est que à divers moments, il y a vraiment des ponts et des interconnexions qui se font entre ces différents projets. Voilà, je sais que les Angelés sont actuellement au travail pour remixer un Laetitia Sherif qu'ils apprécient énormément. Laetitia Sherif a elle-même fait des chœurs sur l'album de Bikini Machine. Voilà, c'est une scène qui quand même s'appréhende, qui s'apprécient, donc les connexions sont multiples, et puis voilà, cette fibre rock qu'on retrouve quand même sur tous les projets, que ce soit Zetilé, Laetitia Sherif, Bikini Machine, pour ne parler que de nos sorties actuelles, elle est évidente. Quoi.
C'est une des questions que je voulais poser, justement, si les artistes Yotanka avaient déjà eu l'occasion de, pas forcément que de partager la scène ensemble, mais également de jouer ensemble, c'est-à-dire éventuellement de monter des projets annexes à leur groupe d'origine.
Alors ça, on laisse le soir aux artistes ensuite d'initier des collaborations s'ils ont envie. Je pense que c'est pas tellement le rôle de nous, label. Néanmoins, comme je le disais, voilà, il y a des fois on crée l'étincelle pour que se passe des choses. Et puis évidemment, c'est le cas là entre Zanziné et Letitia Sheriff. On a eu d'autres exemples sur le label. Pour on pense par exemple à Psaki Lyrica, qui est très liée à la scène réelle. Thomas Pauly, le guitariste de Letitia Sheriff, travaille aussi avec Psaki Lyrica. Vous voyez, les connexions entre artistes, elles se font naturellement. Et puis nous, c'est une fois qu'on apprécie une scène, parce que il y a une interconnexion naturelle. Évidemment, on aime d'un artiste à l'autre, c'est assez simple d'aller d'une sortie à l'autre et d'une esthétique à l'autre.
Dans le cadre de cet anniversaire au Shabada, il y a, pour toute place achetée, on a un album d'un des artistes du label Yotanka qui sera offert et qui sera donc à retirer sur place le soir du concert sur présentation du billet. Et est-ce que certaines de vos sorties ont été affectées par ce qu'on pourrait appeler la crise du disque, dont on ne parle plus forcément aujourd'hui, mais plutôt en fait le poids du téléchargement? Est-ce que c'est des initiatives à mettre en place forcément dans le cadre de concerts?
Alors, Vizinguerri et moi-même, en fait, on est vraiment cette jeune génération de labels, donc on n'a jamais vraiment connu l'époque faste du disque. Pour nous, on a toujours travaillé nos sorties en sachant que, en étant conscient des réalités du marché. Donc, je dirais que nous, on n'a pas tellement subi vraiment de désenchantement. Néanmoins, on sait que voilà, le disque c'est difficile, mais le digital commence à être vraiment important pour nous. On notera aussi que les ventes vinyles, nous, auxquelles on est très attachés, toutes nos sorties quasiment sortent en digital, en digipack et également en vinyle. Ça, c'est des ventes qui commencent à vraiment se ressentir, hein. L'augmentation, elle est vraiment sensible. Donc voilà, nous, on travaille les projets comme ça, on est conscient des réalités. Après, non, on ne peut pas dire que nos sorties, en tout cas les récentes, pour parler de ce qu'on connaît, c'est-à-dire depuis 3 années, ont été impactées par la baisse du disque. Il y a le streaming qui commence à être vraiment aussi important en France. Donc voilà, on essaie de travailler autour de tous ces usages-là.
Quelles sont vos envies en matière de signature de groupe aujourd'hui? Il y a quand même eu beaucoup de styles qui sont connectés donc par l'indépendance. Mais aujourd'hui, vous auriez envie de quoi comme style de musique, voire de projet peut-être différent?
Alors là, justement, on est en train de réfléchir à ce qu'on va sortir en 2015. Le premier trimestre est déjà assez défini, puisque nous avons Kid Francescoli, cet artiste marseillais qui fait de l'électropop, qui sortira le 9 mars. Nous avons un duo fraternel qui s'appelle Ropopo Rose, originaire de Vendôme, qui sortira le 26 janvier, enfin qui sort en fait aujourd'hui, le 26 janvier, l'album Elephant Love. Et puis on a le groupe Angevin, hip-hop, Nouvelle Ère, dont le retour aussi est très attendu, dont l'album Les Yeux de la Foule sortira le 16 février. Donc voilà, nous on a notre premier trimestre qui est déjà défini. Ensuite, le champ est encore ouvert pour la suite de l'année. Voilà, on guette 3-4 artistes qui pourraient être intéressants pour nous. Il y a déjà des choses avancées, je ne vais pas vous en dire plus aujourd'hui. Mais nous, on a les yeux un peu rivés vers un groupe étranger. Et puis, on continue. On écoute aussi beaucoup de francophones. Voilà, c'est quelque chose qui nous intéresse, mais dont on a parfois du mal à trouver quelque chose qui nous conviendrait. Donc voilà, les oreilles sont grandes ouvertes actuellement, on se refuserait en termes d'esthétique. On pourra, je pense, annoncer prochainement les sorties du second trimestre 2015 et puis de la rentrée à partir de septembre.
Hormis ces sorties pour ce trimestre 2015, vous soutenez également le projet Angers Musique 2020. Donc c'est un projet qui tend, selon leurs mots, à représenter l'ensemble de la filière musicale angevine pour la rendre visible et structurer au mieux son développement. Alors je voulais savoir en quoi ce projet diffère des autres accompagnements qui sont déjà proposés au préalable par la ville, par exemple, avec le dossier prêt à monter sur scène.
Le projet n'a vraiment strictement rien à voir. Donc déjà, je le remets dans l'ordre, ça s'appelle 2020 Angers Musique. C'est une initiative entièrement privée, hein. C'est vraiment la grosse originalité du projet. Donc elle n'a rien à voir avec des dispositifs que peut proposer la ville en soutien en groupe amateur ou en voie de professionnalisation. Nous, l'idée de 2020 Angers Musique, c'était de dire on fait le constat, nous, en tant qu'entrepreneurs privés de la filière, que Angers a vraiment des forces en matière de filière musicale, que Angers a été associée dans les années 90 à la musique, naturellement en France et parfois au-delà des frontières françaises. On a un peu perdu cette spécificité parce que les groupes qui rayonnent vraiment aujourd'hui sont des groupes assez anciens. Nous, ce qu'on veut en tant que maillon de la chaîne de la musique à Angers, c'est de dire il faut vraiment cultiver cette spécificité et puis encourager toutes les forces en présence à se développer et à rayonner. Donc, comment on fait aussi pour avoir une scène forte? Comment les artistes développent des conditions favorables pour créer à Angers? Et puis, comment on donne les meilleures chances de diffusion, de création, de production ici sur le territoire? Donc on est vraiment sur un regard complètement privé. Notre idée avec 2020 Angers Musique, c'était d'alerter les acteurs, les artistes, etc. sur ces sujets-là, c'est-à-dire vous-même prenez en main vos sujets, essayez de les porter, et puis d'autre part, évidemment, alerter la puissance publique, la collectivité de ces atouts et qu'ils ne les négligent pas, qu'ils travaillent avec les acteurs pour développer et structurer cet écosystème qui peut avoir une réelle valeur, une valeur politique, une valeur économique, une valeur sociale. Voilà, c'était vraiment d'attirer les regards sur cette filière musique.
Et pour éviter toute confusion, je rappelle que le site s'appelle bien 2020angersmusique.fr.
Voilà, parfait.
Eh bien, merci Clarisse d'avoir répondu aux questions de Radio Campus Angers.
Merci à vous et puis j'espère vous retrouver jeudi soir au Chabada.
La carte blanche à Yotanka, c'est donc jeudi à 20h30, 5 euros avec la carte Chab, 10 en pré-vente et 13 au guichet. Pour se mettre dans l'ambiance, voici un morceau de Laetitia Sheriff, ça s'appelle Opposite et c'est extrait de son dernier album.
Opposite, opposite to your mood. You play again with your shadow, you play a game. Thank you.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et c'est l'heure de retrouver la chronique sportive d'Hugo. Salut Hugo.
Bonjour.
Les championnats du monde de handball ont commencé depuis le 15 janvier dernier au Qatar, petit pays de la taille de l'Île-de-France et moins peuplé que Paris intramuros, en plein cœur du Moyen-Orient, dans la péninsule arabique où le pétrole coule à flot. L'attribution de ce mondial a fait beaucoup parler et continue encore, n'est-ce pas Hugo ?
Oui, avant de partir à Doha, la capitale du Qatar, Claude Onesta, le sélectionneur de l'équipe de France de handball, exprimait lors de sa conférence de presse ses doutes quant à l'intégrité du Qatar dans ses relations avec les organismes terroristes. On va devoir vivre notre métier à un endroit où, par moment, on se demande si tout est bien en place. C'est peut-être pas l'endroit où on aimerait vivre, en tout cas moi à titre personnel. Pour autant, je ne crois pas qu'il faille faire d'amalgame ni diaboliser, précisait-il. S'il y a des choses qui doivent être gérées à l'échelle de la géopolitique et des relations avec le Qatar, ce n'est sûrement pas à nous qu'elles appartiennent en premier. Nous, on va faire notre métier dans un pays où la compétition sera organisée de manière tout à fait performante. Il y a des questions que le citoyen peut se poser, mais là, ce n'est pas le citoyen qui vous parle, mais l'entraîneur de l'équipe de France. C'est donc sceptique, mais consciencieux, que le sélectionneur de l'équipe de France de handball s'est engagé dans ce mondial qatarien. Le Qatar est la nouvelle puissance montante dans l'échiquier mondial du sport. Ce pays richissime, avec plus de 900 milliards de dollars de PIB, s'est octroyé, en plus de ce mondial de handball, les mondiaux d'athlétisme en 2019 et la Coupe du monde de football en 2022. Mais comment est-ce possible qu'un pays sans aucune culture sportive et achetant les supporters des pays étrangers afin qu'ils garnissent les tribunes des salles climatisées puisse s'octroyer autant de compétitions sportives internationales ? C'est donc à coup de pétrodollars que le Qatar obtient cette reconnaissance internationale, autant dans le monde du sport que dans celui de l'éducation, qui sont les deux fers de lance de ce pays de nouveaux riches. Ainsi, ils peuvent attirer sur leur territoire de nombreux ressortissants étrangers, dont certains obtiennent la nationalité qatarienne, afin de constituer leur équipe nationale. L'équipe qatari est actuellement constituée de 3/4 de joueurs naturalisés. Dans un pays ne comptant que 800 handballeurs licenciés, l'engouement est faible autour de cette nouvelle équipe. Le Qatar doit donc créer cet engouement à l'étranger pour cette compétition. Ils ont réussi à le faire en Allemagne, qui est en effet le premier pays de handball au monde. Cependant, l'Allemagne s'est fait éliminer dès la première phase de qualification du mondial, ce qui est une très mauvaise affaire pour le Qatar. Ils ont donc modifié le règlement en annulant la qualification de l'Australie jugée trop faible afin de repêcher l'Allemagne. Cet engouement recherché à l'international est voulu afin que le Qatar puisse mener à bien sa politique économique. Sachez en effet que le Qatar vend à prix d'or les droits de diffusion de son mondial aux télévisions et médias allemands. Dans un pays soutenant les frères musulmans et appliquant la version la plus intégriste du Coran, le wahhabisme, le sport rayonne. Et puis un dernier mot, Tiffen, pour quand même préciser que la chaîne de télévision détenant les droits de diffusion de cette compétition est beIN Sport, chaîne dont le propriétaire est Nasser El Khaifi, riche dignitaire qatari.
Hugo, peut-être un petit point sur le match qui est en train de se jouer, un match de 8e de finale entre la France et l'Argentine.
Oui, oui, actuellement l'équipe de France mène à la mi-temps 16 à 6 contre l'Argentine.
Merci beaucoup. Hugo, on te retrouve demain pour Ta gueule Coubertin à partir de 20h sur Radio Campus Angers.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
La perme de ce soir, eh bien, c'est bien calme, alors faites donc ce que vous voulez. On termine cette émission avec la traditionnelle bulle sonore. Voici un extrait d'Otros Mundos, orchestré par Michel, un petit voyage à Taroudan, au Maroc.
Et l'ambiance à l'intérieur de ces remparts dans le cœur de la ville commençait ?
C'est très particulier, rien à voir avec les centres-villes chez nous, puisque tout le monde vit dans la rue là-bas. Quoi. Donc il y a tout un tas de marchands sur le bord des rues, tout le monde travaille dans la rue, quoi. Donc c'est beaucoup plus vivant que nos centres-villes à nous, où tout le monde marche vite sur un trottoir sans s'arrêter. Là-bas, on peut faire plein de rencontres à chaque coin de rue. Quoi.
Et donc en direct du souk de Taroudan, avec Omar, notre guide, donc un petit monsieur d'un certain âge qui a combattu pour la France et qui est originaire de Taroudan, donc qui nous fait visiter le souk.
Comment ?
Ce matin, moi j'ai plus.
Non, on est arrivé hier soir. On est arrivé hier soir par le bus. On est arrivé à Ouzgan.
Oui. Donc Omar nous disait à l'instant qu'il y avait 45 000 habitants à l'intérieur de la Médina.
Donc là, c'est tous les paysans de la région qui viennent vendre leurs grains.
Oui,
ici.
Voilà. Gorge, du maïs, de la farine, etc. C'est les gens de Bakopan. Ils vendent du plus.
Vous pouvez réécouter la totalité du programme sur le www.radiocampusangers.com et écouter le prochain épisode dans un instant dès 20h. Michel fait encore se promener des micros autour du monde. Nous, on se retrouve demain à 19h. On parlera Big Data. Merci à Yann et à Hugo. Merci à Thomas qui a co-préparé l'émission. Merci à David et à Raoul pour la réalisation. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.